Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel au Soudan. La reprise des discussions entre l'armée au pouvoir et le mouvement de contestation sur la transition politique prévu hier dimanche aura finalement lieu aujourd'hui. Annonce faite par la coordination des protestataires. Les précisions, Baga Sikoura.
L'armée soudanaise a proposé de reprendre les discussions sur un transfert du pouvoir à une autorité civile, avait annoncé samedi l'ALC, l'Alliance pour la Liberté et le Changement. Mais la rencontre de dimanche a finalement été remise à ce lundi. Les pourparlers entre les dirigeants de l'ALC, fer de lance de la contestation et le conseil militaire butent sur plusieurs points. Les deux parties divergent notamment sur la composition d'un organe appelé à remplacer le conseil militaire. L'ALC veut qu'il soit dominé par les civils, tandis que l'armée cherche à ce qu'il comprenne une majorité de militaires. Les généraux au pouvoir veulent en outre garder la loi islamique comme source de la législation. L'ALC propose de résoudre les désaccords en l'espace de 72 heures à partir du début des discussions.
Au Cameroun, faut-il discuter avec les séparatistes anglophones? En visite à Bamenda dans la région du Nord-Ouest, le Premier ministre Joseph Dion Nguté a assuré que le président Paul Biya est prêt à dialoguer. Mais les séparatistes ne l'entendent pas de cette oreille, nous dit à Yaoundé notre correspondant Emmanuel Julinta.
Les leaders séparatistes anglophones basés à l'étranger ont été les premiers à faire entendre un son de cloche différent sur l'annonce de l'ouverture d'un dialogue dans la crise anglophone.
La seule opinion dans le territoire de l'Ambazonie est sa liberté.
Lucas Shaw Ayaba, leader d'une branche armée de séparatistes en zone anglophone, sur une vidéo publié vendredi dernier.
Dans la lutte pour notre existence, dans la lutte pour notre survie, il y a une seule option, c'est l'indépendance totale. Il s'agit de la survie du peuple de l'Ambazonie.
L'Ambazonie est le nom que les séparatistes anglophones ont donné aux deux régions anglophones du Cameroun, une initiative sur laquelle le président Biya reste radicalement opposé.
En tant que chef de l'État, il m'a demandé de dire que la séparation n'est pas à l'ordre du jour.
Joseph Dion Nguté, premier ministre au cours d'une conférence de presse à Bamenda.
Tout problème politique peut être discuté. Et il est en train d'organiser une rencontre qui va discuter ce problème. Ça ne sert à rien pour que ces jeunes continuent à être dans la brousse et de détruire la communauté comme ils sont en train de faire.
Des femmes en pleurs ont réclamé le retour de la paix en zone anglophone devant l'émissaire du président Paul Biya. Le premier ministre a aussi échangé dans la rue avec les commerçants pour les inviter à renouer avec leurs activités. Tout ceci pour convaincre de la nécessité du dialogue sur la crise anglophone. John Fundi, président du Social Democratic Front, un parti de l'opposition, dont les régions anglophones sont les principaux bastions, a admis le principe de ce dialogue. Fobin Shinda Simon, député SDF, au sorti de l'audience avec le Premier ministre.
Nous avons demandé un cessez-le-feu immédiat. Les soldats sont rappelés dans les casernes et les combattants
déposent les armes.
On relâche tous les prisonniers de guerre. Nous avons proposé qu'il y ait un médiateur.
De nombreuses tentatives infructueuses de résolution de la crise anglophone ont déjà eu lieu depuis novembre 2016.
Le Premier ministre Dion pourrait échouer comme les autres l'ont fait avant lui.
Docteur Sumo Tayo, enseignant à l'université de Yaoundé 1, spécialiste des questions de sécurité.
Les préalables de ce dialogue n'ont pas été réunis. Je pense par exemple à la libération des prisonniers. Tout ceci me laisse penser que l'on n'est plus dans le cadre d'une visibilité tapageuse. On accorde plus d'importance aux aspects de forme qu'à la substance.
La crise anglophone a débuté en octobre 2016 par des revendications corporatistes. Depuis fin 2017, dans le nord-ouest et le sud-ouest, les groupes armés et les forces de défense et de sécurité s'affrontent, faisant ces 20 derniers mois, 1850 morts, selon le Centre d'analyse sociopolitique International Crisis Group, Yaoundé, Emmanuel Jelunta, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, un assaillant a été tué dans la nuit de dimanche à lundi par les forces de sécurité qui ont repoussé une nouvelle attaque contre un centre de traitement d'Ebola, CTE, dans l'est du pays. Dans cette zone du Nord Kivu, la riposte anti-Ebola est compliquée par la présence de groupes armés et par les résistances d'une partie de la population avec le déni de la maladie, refus de la prévention, des soins, des enterrements dignes et sécurisés conduits par la Croix-Rouge. L'actuelle épidémie de fièvre hémorragique Ebola est la 10e et la plus grave enregistrée sur le sol congolais depuis 1976. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a assuré dimanche que son parti, le Congrès national africain ANC, allait tirer les leçons de sa victoire en demi-teinte aux législatives du 8 mai et promis de créer des emplois et d'éradiquer la corruption, en baisse de près de 5 points sur celui obtenu en 2014. Ce résultat, toutefois, est le plus mauvais jamais réalisé par le parti historique de Nelson Mandela dans des législatives depuis qu'il a pris les rênes du pays à la chute de l'apartheid en 1994. Élu par les députés, M. Ramaphosa doit être investi pour un nouveau mandat de chef de l'État et ce sera dès le 25 mai. Le Conseil constitutionnel mauritanien a adopté dimanche la liste définitive des 6 candidats à l'élection présidentielle du 22 juin, dont celui du parti au pouvoir, Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed, compagnon de toujours du président Mohamed Ould Abdelaziz. Ce scrutin devrait marquer la première passation de pouvoir entre un président sortant et son successeur élu dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest qui a connu de nombreux coups d'État de 1978 à 2008. La campagne électorale va se dérouler du 7 au 20 juin. En cas de second tour, il se tiendra le 6 juillet.
Nos infos sur voaafrique.com.
Studio 1740 de la Voix de l'Amérique, il est 7h06. Le Sri Lanka a bloqué aujourd'hui l'accès de Facebook, WhatsApp et plusieurs autres réseaux sociaux à la suite d'émeutes anti-musulmanes dans plusieurs villes, quelques semaines après les attentats de Pâques qui avaient notamment visé des églises. L'île est sous tension depuis le carnage du 21 avril, quand 258 personnes ont péri dans des attaques qui ont visé 3 églises et 3 hôtels. La police a précisé que le couvre-feu qui avait été imposé à Shilao dans les alentours avait été levé ce lundi, mais les réseaux sociaux ont été bloqués afin d'empêcher qu'ils soient utilisés pour attiser les tensions. La commission d'enquête mise en place sur le massacre dans 2 mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande a commencé aujourd'hui et a recueilli des éléments et des témoignages. La commission d'enquête royale néo-zélandaise doit se pencher sur les activités présumées du tireur, sur l'utilisation des réseaux sociaux et de soutien à l'étranger. La commission a jusqu'en août pour recueillir des éléments de preuve et elle soumettra ses conclusions au gouvernement le 10 décembre. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo est attendu aujourd'hui à Bruxelles pour discuter de l'Iran avec les Européens. Les précisions d'Anne Alberson.
Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a décidé de se rendre ce lundi à Bruxelles pour discuter de questions urgentes et notamment de l'Iran avec des responsables européens, a annoncé dimanche soir un responsable du département d'État. Un conseil des affaires de l'Union européenne est prévu lundi à Bruxelles, mais on ignore les rencontres prévues à l'agenda de M. Pompeo. On sait seulement qu'il s'entretiendra notamment avec des responsables de la France, du Royaume-Uni et de l'Allemagne, les 3 pays européens signataires de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien.
Et à propos toujours de l'Iran, les États-Unis ont donné un nouveau tour de vis à leur campagne de pression maximale contre l'Iran en annonçant de nouvelles sanctions, cette fois sur les métaux, mais des responsables locaux du secteur affirment que ses revenus sont moins exposés que ceux du pétrole. Après avoir rétabli de dures sanctions économiques contre l'Iran en août, puis en novembre dernier, l'administration Trump a mis un terme fin avril aux dérogations permettant encore à 8 pays d'acheter du pétrole iranien, la source de revenus principale du pays, sans s'exposer aux sanctions. Les Philippins ont commencé aujourd'hui à voter pour des élections de mi-mandat qui devraient donner les coups des franches au président Rodrigo Duterte pour potentiellement mettre en œuvre ses promesses de rétablissement de la peine de mort et de réforme de la Constitution. Plus de 18 000 mandats sont remis en jeu à l'occasion de ce scrutin, dont la moitié des sièges du Sénat, une institution qui a joué un rôle crucial depuis 3 ans pour bloquer certaines des initiatives les plus controversées de l'ancien maire de Davao, la grande ville du sud des Philippines. Et la justice suédoise a annoncé aujourd'hui la réouverture de l'enquête pour viol contre le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, espérant le voir comparaître devant un tribunal avant la prescription du crime en 2020. Jean-Roger Billon, le prochain journal, c'est dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francis. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.